Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Et salut à tous.
Et de notre patient en cours de guérison, c'est Ben.
Salut à tous.
Ça va Ben,
ouais,
fais attention, prends bien soin de toi.
Ça va mieux là, ça va.
Donc si vous entendez Ben à l'article de la mort pendant le podcast, c'est normal,
c'est
il
normal.
Est malade.
Non, ça devrait le faire.
Bon, cette semaine, encore une fois, podcast thématique. À part les aventures de Peter Molyneux, il n'y avait pas grand-chose à raconter, hein, n'est-ce pas?
Mais on va pas lui donner plus d'importance, il le mérite pas.
Ah si, par contre, il y avait un autre sujet que je voulais évoquer. Je sais pas si vous avez vu le portage PC
de
Tales of Telesoft.
Ah si, j'ai vu ça, c'est un scandale.
On peut en parler vite fait?
Alors, en gros, ce portage, c'est un portage, mais honteux, quoi. C'est-à-dire toujours locké 30 FPS, une résolution toute pourrie, enfin la résolution de l'époque, quoi.
Ouais, qui est sortie sur GameCube à l'époque.
Et en gros, t'as un meilleur résultat sur Dolphin que ce que tu peux avoir avec le portage PC, quoi. Enfin, c'est à un moment donné...
C'est vraiment dégueulasse ce qu'ils ont fait.
C'est quoi le jeu?
Tales of Symphonia.
Ah.
Bon, après, c'est Tales of Symphonia, j'ai envie de dire, c'est pas une grosse perte non
oh,
plus.
Ah, il était pas mal. Pour un Tales, il était pas mal.
Vous connaissez mon amour pour les Tales of,
oui,
je veux
oui.
dire, sortie de Tales of the Abyss, personnellement. Voilà. D'un autre côté, je m'en doutais un peu que ça allait être un portage de merde, parce que il faut savoir que le jeu était offert gratuitement avec ceux qui précommandaient, je crois,
Tales
of Zestria.
Ouais, c'est ça, ouais.
En général, quand on t'offre un jeu gratos comme ça,
c'est que ça pue.
Voilà. Bon, bah écoute, on espère que les prochains jeux japonais qui débarqueront sur PC prendront plus l'exemple de Sega avec Valkyria Chronicle que celui-là, quoi.
Ça serait bien, ouais.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on parte donc sur ce nouveau podcast thématique. Pour informer nos auditeurs, ce sera un podcast thématique consacré au RPG. Ça ne vous a pas échappé que... C'est un genre pour lequel nous avons une affection particulière ici, n'est-ce pas? Et pourquoi on voulait vous parler des RPG cette semaine? Parce que on est parti d'un constat quand on parlait de The Witcher, à savoir que dans The Witcher, il y avait un petit souci quand même, enfin même un petit gros souci, c'est que c'est un jeu par certains moments qui voulait te créer des situations d'urgence, à savoir que il y a des moments où tu dois sauver certains personnages, ce genre de choses. Et alors que tu dois aller sauver ces personnages, tu peux tranquillement aller te balader dans le monde entier, flâner dans les champs, etc. Bref, alors que le jeu te propose une histoire épique, le joueur peut absolument n'en avoir rien à branler et faire totalement autre chose pendant des heures. Ce qui nous pose cette question, est-ce que c'est pas un peu problématique et comment on peut y remédier?
C'est plus une facilité de la part des développeurs qu'autre chose. Pour moi, c'est pas un problème dans le sens où il n'y a pas eu de jeu aujourd'hui qui arrivait à nous mettre une histoire que t'es obligé de suivre ou pas. Mais
dans un open world, entendons bien.
Oui,
voilà.
Bien sûr.
Et si tu la suis pas, et bah, il y aura quand même des conséquences. Il n'y a pas eu encore de jeu référence, en fait, qui arrivait et nous a dit à un moment, tous les jeux en open world qui vont faire une histoire ne pourront plus se contenter de ce qui a été fait avant. Et il faudra qu'ils mettent la barre plus haute s'ils veulent ne serait-ce que arriver à la cheville de ce jeu-là. Ça pose pas de problème pour le moment.
Déjà, j'ai envie de dire, avoir une bonne histoire dans un open world, à part les GTA où finalement tu suis la flèche, quoi, quelque part. C'est-à-dire que t'as ton GPS qui dit d'aller faire telle mission, tu vas faire telle mission, etc. C'est extrêmement rare d'avoir des jeux open world qui réussissent à avoir une histoire réussie, et encore plus dans un RPG comme The Witcher, où là, en plus, normalement, t'es censé gérer les choix. Alors que GTA, bon, c'est relativement facile, je veux dire, tu fais une histoire linéaire et ça passe tout seul, quoi. Là, The Witcher, quand même, ce qu'il a apporté, je trouve, et c'est déjà bien, c'est que, au moins, on arrive déjà à avoir un RPG open world avec des choix où tu as une narration vraiment dense. Et ça, pour moi, c'était une première, déjà. C'est là, par contre, où je voulais nuancer un peu, je pense que The Witcher crée un précédent, en tout cas, en matière de narration dans un open world. Mais par contre, ce qu'il n'a toujours pas réussi à résoudre, c'est cette dichotomie qu'il y a entre le fait de mettre une histoire dans un open world et de la rythmer, en fait, tout simplement.
Ouais, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que dans The Witcher 3, Geralt, il peut mettre un certain temps avant d'accomplir la quête principale. C'est là que le jeu va pas fonctionner. C'est pour ça que je te disais que c'est pas un référent à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de jeu qui est arrivé, qui nous a dit... Enfin, pour moi, il y a peut-être un jeu qui joue avec cette contrainte, on va dire, du temps. C'est... The Legend of Zelda Majora's Mask. Sauf que Majora's Mask bascule tout avec le twist de retour dans le temps. Parce que tu as l'ocarina du temps, en fait, qui te permet de revenir avant la fin de ce délai imparti qui est de 72 heures. Si tu veux, ça annule tout ce que t'as fait. T'as l'impression de revoir le film Le Jour de la Marmotte. Tu vois qu'ils font tout le temps la même chose et c'est quelque chose qui revient en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, arrivé le troisième jour, il y avait des gens, selon le peuple où tu te rendais, il y en avait qui étaient vraiment flippés, d'autres qui s'en foutaient, qui disaient ouais, nous on va faire la fête et tout ça. Et l'idée aurait pu être super intéressante dans le podcast qu'on parle aujourd'hui si Link justement ne pouvait pas revenir en arrière et qu'on était obligé de finir le jeu peut-être pas en 72 heures parce que c'est compliqué, mais peut-être en, ils nous ont laissé un peu plus de temps, tu vois. Il y avait aussi Final Fantasy XIII Lightning Returns que je n'ai pas fait. Donc là, je pourrais pas juger ni vous en dire plus à ce niveau-là, mais je sais que c'était pas mal inspiré de Legend of Zelda Majora's Mask, sauf que cette fois-ci, Lightning avait 13 jours pour sauver le monde et qu'elle pouvait aussi revenir en arrière. Donc, on reprend cette mécanique où le jeu te sanctionne pas, si tu veux, vis-à-vis de l'histoire, parce qu'il te permet toujours de faire un reset. C'est un peu dommage qu'il n'y a pas un jeu qui est allé plus loin à ce niveau-là, justement en ne te proposant pas ce reset, c'est-à-dire que l'histoire continuerait même si tu échoues, en fait.
Alors après, j'ai envie de dire, des RPG open world avec une histoire dense, il n'y en a pas tellement que ça. Donc c'est normal, quelque part. Ben, toi qui es amateur de JRPG, je veux dire, dans le JRPG, fondamentalement, alors c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu bizarres des fois dans les JRPG, genre tu vois Final Fantasy VII, à la fin t'as une météorite qui arrive sur la planète.
Mais tu peux
planète.
Quand même jouer encore 30 heures sur le jeu si tu veux, quoi.
Ouais, 30 heures au Gold Saucer.
Ouais, c'est ça.
Je peux témoigner.
Pour avoir ce foutu chocobo d'or.
C'est ça.
Voilà. Et en fait, enfin, il y a des RPG où on prend la solution de facilité en ce sens où tu peux pas ignorer ce qui se passe, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, ça y est, maintenant, t'es sur la fin. Et là, tu vas avancer. Là, ça devient très linéaire, quoi.
Ouais. Alors après, ce qu'ils ont fait, par exemple, dans le dernier Dragon Age, pour ce côté-là, en fait, c'est un semi-open world, parce qu'en fait, c'est des cartes qui sont assez vastes, mais tu peux pas accéder d'une carte à l'autre, en fait. Tu reviens sur une espèce de map monde à chaque fois, où tu choisis sur quel point tu vas aller. Mmh. Du coup, quand t'as certaines choses qui sont obligées, en fait, ils bloquent les accès aux autres. Donc t'es obligé d'aller à l'endroit où va se dérouler l'action par exemple principale à ce moment-là. Alors après ils te laissent des moments où bien sûr tu peux faire ce que tu veux, mais pour ce côté où il faut que tu fasses une action à un moment, ils t'obligent entre guillemets à y aller parce que tu veux pas aller aux autres endroits tout simplement, quoi. Mais c'est pas un vrai open world.
Mais justement, ça, ce genre de choses, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment compatible avec la vision qu'on a d'un open world.
Non, c'est un semi-open world, ouais, bien sûr.
Et c'est là la question que je voulais poser, en fait. Est-ce qu'il est vraiment possible dans un open world de créer des mécaniques qui malgré tout te laissent toujours un certain degré de liberté mais permettent en même temps de raconter des histoires et permettent de créer cette situation d'urgence? Alors
est-ce que la solution ça serait pas justement, par exemple, excuse-moi de t'interrompre, mais ça serait pas justement que un jeu comme ça, bah en fait ça serait paradoxal à dire dans un open world, mais te prennent par la main à certains moments, c'est-à-dire le jeu t'a amené à l'endroit voulu pour que tu empêches cette menace ou que tu trouves une solution, enfin ce genre de choses là c'est un peu paradoxal de dire ça dans un jeu à monde ouvert.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire, là à ce moment-là, enfin tu fais pas un jeu à monde ouvert, quoi, tu fais comme Dragon Age, Link's Awakening, tu fais un semi open world il y a des moments où tu es contraint, mais ça, je veux dire, c'est dommage si tu veux de faire un jeu à open world si c'est pour ne pas en exploiter les spécificités.
Tu l'exploites les spécificités, sauf que à certains, c'est juste à certains moments, c'est pas pendant tout le jeu. C'est là que je voulais en revenir.
Alors, moi je pense qu'une solution véritablement élégante dans un open world, c'est de dire ok, tu peux décider d'ignorer complètement cette quête, mais ça aura des conséquences.
Ouais.
Imaginons, il y a une armée qui va attaquer un château, et il y a le roi qui va se faire tuer, etc., tu vois. Si tu ne vas pas sur place pour défendre le roi et participer à la défense de la ville, etc., la ville sera rasée, par exemple. Alors là, je prends un exemple, on imagine un triple A avec un budget absolument mirobolant. Mais imaginons un jeu, tu vois, où quand tu décides d'ignorer ce qui se passe dans l'open world, bah c'est pas grave, mais parce que l'histoire, elle continue, en fait. C'est-à-dire que quand t'as une situation d'urgence, elle est véritablement urgente, et t'as décidé d'ignorer ce qui se passait, bah tu en payes les conséquences.
C'est exactement l'exemple que j'allais prendre. Le seul moyen, c'est que ça ait une réelle conséquence, en fait, dans l'histoire du jeu, quoi. C'est le seul moyen de t'obliger à faire quelque chose dans un temps imparti, parce que sinon, voilà, comme disait l'exemple qu'a cité ATH, c'est vrai que du coup, ça casse le côté immersif de l'open world. Parce que du coup, bah, ça t'oblige à aller à un endroit et à faire une quête à un moment, alors que t'avais peut-être pas, tu voulais peut-être pas la déclencher à ce moment-là, parce que tu voulais aller faire un peu d'XP avant, parce que tu t'étais pas assez fort, par exemple. Et du coup, bah, ça peut créer un problème, parce que si tu déclenches ta quête et que t'es vraiment pas assez fort, et du coup, tu t'en sors pas, tu fais comment? Si t'as pas le niveau et que tu passes 5 heures à passer le truc parce que tu t'en sors pas, alors que si t'étais allé leveler un peu avant, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc c'est un peu compliqué cette démarche-là.
Alors, après, ce qu'on peut faire, c'est un système où, par exemple, tu as des triggers.
Oui.
C'est-à-dire que si tu n'as pas enclenché tel ou tel trigger, la quête avance, en fait. Mm. Si au bout de, je sais pas moi, une heure de jeu, après avoir déclenché ce trigger-là, tu n'as toujours rien fait, à ce moment-là, t'as une cinématique qui se déclenche et qui te montre la ville en ruine, etc.
Ouais.
Alors, après, ce qui serait intéressant, tu vois, effectivement, c'est de dire, si t'es trop faible, il se passe ça aussi, tu vois.
Ouais.
Ça pourrait être un autre truc. Mais, après, là, on parle de jeu, si tu veux, à niveau, en fait. Mais, par exemple, imagine un jeu à compétences, le problème se pose pas tellement.
Oui, c'est vrai.
Si tu doses bien la difficulté, normalement, dans un jeu à compétences, qui est essentiellement basé sur le skill, finalement, je veux dire, ça passe tout seul. Hein. Il y a plein de boss, par exemple, dans Dark Souls, où du moment que t'as le skill, si tu te fais pas toucher, ben, ok, tu vas passer 3 plombs, tu es le boss, mais tu vas y arriver, quoi, au bout d'un moment. Et je pense que si t'arrives quand même à garder un certain équilibrage, finalement, ce problème n'est pas tellement important. À mon sens, le principal problème de cette solution, c'est que c'est fou la trouille aux développeurs, parce que je suis sûr qu'à un moment donné, t'as des joueurs qui vont se plaindre du fait que « Oui, c'est quoi scandale, c'est un open world, pourquoi je peux pas faire n'importe quoi ?» Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on associe forcément open world à « Je fais ce que je veux », à sandbox en fait. Alors que
vrai.
Open world, ça ne veut pas forcément dire sandbox.
Non, c'est vrai.
Ça n'est pas forcément des sandbox. Alors certes, les sandbox tirent entièrement partie de ça, mais tu peux faire autre chose, des jeux vachement scénarisés qui exploitent l'open world pour faire autre chose avec, quoi, par exemple.
Après, je pense qu'il y a un problème de coût, parce qu'on voit qu'un jeu comme The Witcher a déjà coûté assez cher. Bon, après, il a rapporté, donc ils n'ont pas à se plaindre. Mais le problème avec ce qu'on disait, c'est, enfin, surtout toi, tirant la solution que tu proposais, c'est que du coup, ça implique plein de scénarios différents. Et plein de possibles rebondissements, et du coup ça rallonge, enfin ça, l'histoire du coup elle prend une importance vraiment énorme, parce que du coup ça laisse plein d'arbres entre guillemets pour arriver à la fin du jeu, ça fait du coup plein de fins différentes aussi, donc en termes de scénario et de coût, je pense que c'est énorme. Après, moi je préférerais qu'ils fassent ça et qu'ils fassent beaucoup moins de quêtes annexes qui servent à rien entre guillemets, et qui se consacre sur un scénario qui peut avoir plein de fins différentes, plein de chemins pour y arriver, plein de conséquences sur tout ce que tu fais, sur la vitesse que tu prends pour le faire. Moi, je serais totalement pour un truc comme ça, ouais.
Bah, ça tombe bien, il y a un jeu pour toi, ça s'appelle Heavy Rain.
Ouais, mais c'est pas un RPG.
Non, mais c'est pas un RPG open world.
Et voilà, en plus.
Ouais, non, mais c'est pour ça que je disais, il y a un jeu qui s'appelle Heavy Rain, c'est parce que tu pourras, à mon avis, ça, tu pourras pas le faire dans un open world, tu vois. Ça sera obligé. Si tu veux faire une narration élastique comme ça.
Bah, je pense que tu peux, mais
ça sera un jeu linéaire.
Ça demande d'avoir un vrai scénario bien ficelé du début à la fin et que toutes les choses soient prises en compte, quoi.
Enfin, je suis désolé parce que. Alors, certes, là, on est d'accord que l'exemple que j'ai donné, c'est l'exemple du château, où effectivement, là, ça implique des coups pas possibles, parce que, en plus, dans un cas, t'as une ville détruite, dans l'autre,
oui,
t'as pas
voilà,
une ville pas détruite, tu vois, enfin voilà. Mais je suis désolé, c'est exactement ce que fait The Witcher 3 actuellement, hein, ce que je propose. C'est juste que dans cette variable, tu gères la variable temps.
Oui.
Bon, je prends un exemple, la quête du Baron Sanglant. Quoique, est-ce que on spoil la quête du Baron Sanglant? Non, mais, enfin, si tu veux, à la fin de la quête du Baron Sanglant, en fonction de tes choix, t'as une issue qui est totalement différente. Et fondamentalement, moi, je suis désolé, le fait d'ignorer la quête principale, ça n'est qu'un choix en plus à ajouter dans l'équation, quoi. The Witcher 3, déjà, a une narration qui est, pour le coup, énormément élastique, si je puis me permettre.
Ouais, mais elle est élastique, mais à un certain point, c'est-à-dire tout ce qui est... C'est prévu par le développeur que t'as un choix 1, choix 2, choix 3, d'accord?
Bah oui, mais
fondamentalement,
ignorer la quête, c'est choix 3, hein.
Non, oui, mais sauf que, regarde... Les choix que tu fais dans The Witcher, c'est ils ne passent emboîtés les uns par rapport aux autres. Alors que là, par exemple avec ton histoire de château, d'accord, si tu ignores cette quête-là, le château est rasé, etc. Si y avait le roi qui devait, tu devais voir pour continuer la suite de l'histoire, comment tu vas recevoir justement la suite de l'histoire puisque le roi est censé être mort ou emprisonné.
Et je vois pas en quoi c'est différent en fait de faire une histoire où à la fin, ce qui est différent des RPG actuellement, à savoir tu vas dans le château, si tu fais tel choix, le roi est mort, si tu fais tel choix, le roi il vit.
Ouais, bah justement,
c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, ce que non, tu dis. Si le joueur décide d'ignorer la quête, à ce moment-là, il se passe ça.
Mais non, c'est pas du tout la même chose, parce que là, quoi qu'il arrive, pour l'histoire avec le baron sanglant dans The Witcher, tu es obligé de faire certaines quêtes avant de pouvoir avoir le choix qui t'amène à la conclusion. Sauf que là, dans les exemples que tu cites, l'ordre de tes actions peut être totalement aléatoire.
Enfin, je suis désolé, ça dépend. Après, on est d'accord qu'à un moment donné, il va falloir décider où tu vas devoir placer ce timer, en fait. Parce que concrètement, c'est ça.
Oui.
C'est un timer qui se met sur la quête, qui te dit, si t'as pas fait cette quête avant temps, il va se passer ça. Mais ça, je veux dire, ça ne change strictement rien au fait que tu peux dire, par exemple, alors, à partir du moment où tu as déclenché l'événement qui va te dire qu'il faut aller sauver la nana qui est là-bas, à ce moment-là, si au bout de tant de temps, tu n'as rien fait, il se passe ça. Mais fondamentalement, c'est exactement ce qui se passe dans la quête du baron sanglant, je veux dire. C'est juste une question de où tu places le trigger, en fait. C'est tout. Parce que en général, on est bien d'accord que quand tu mets une situation d'urgence, généralement dans une histoire, c'est quand t'arrives à un climax en fait.
Oui.
Et moi, je suis désolé. Enfin, c'est très facile à placer pour le coup ça. Généralement, c'est à la fin en plus. Donc, c'est-à-dire que si à la fin tu dis ah bah non, moi je me casse, désolé, ça m'intéresse pas. Bah écoute, il va se passer ça. Ouais, mais est-ce que c'est si compliqué que ça à placer ? Moi, je suis pas. Moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est surtout que les studios n'osent pas.
Bah, moi enfin en tout cas je sais pourquoi ils n'osent pas, ça c'est comme l'a dit Ben, c'est une question de budget, ça c'est clair et net. Avant dans les années 90, début des années 2000, si vous voulez, dans les jeux vidéo il y avait beaucoup d'easter eggs etc qui étaient cachés, et j'avais vu une interview d'un développeur qui disait qu'aujourd'hui justement il voulait pas mettre des easter eggs trop bien cachés ou bien ce genre de choses là, des niveaux que des joueurs ne verront jamais peut-être, enfin, ou que seulement 20% iront voir. Parce que, en fait, ils veulent que l'expérience de jeu soit vue par quasiment tout le monde. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont de moins en moins cachées. Et ce qui fait que aujourd'hui, ils veulent quasiment tout montrer du début à la fin dans les jeux vidéo. Et alors, faire une narration comme ça très élastique dans un jeu, en plus de ça, en monde ouvert et tout ça, ça voudrait dire qu'ils devraient développer donc un scénario très très solide, avec une histoire qui se tient selon les changements de situation opérés. Et en plus de ça, avec l'exemple que tu as cité, le château qui se détruit, donc une ville en château en ruine.
Non, mais encore une fois, ça c'est un
oui,
exemple.
Non mais je sais, mais
je le prends comme exemple
parce qu'il est pertinent, justement.
Par exemple, un truc genre, tu reçois un courrier, machin, va être assassiné tel jour, machin.
Ouais.
Ça, fondamentalement, c'est un PJ. Soit tu vas faire la quête tel jour et à ce moment il est pas mort, soit tu vas pas la faire, à ce moment il est mort. Fondamentalement, en termes de coût de développement, c'est pas non plus, c'est comme faire choix A, choix B, hein. C'est exactement la même chose.
Justement, j'ai pris ton exemple du château parce que je le trouve pertinent. Il y aura pas tout le monde qui va voir la même chose et ça va demander des ressources en plus pour le jeu, et ça, déjà que ça va leur coûter de l'argent, donc je pense pas qu'ils vont s'investir, dans ce genre de projet d'ici là, quoi.
Mais attendez là. Là, on est d'accord que l'exemple que j'ai donné est extrême. Il y a des degrés quand même, si tu veux, entre faire un château que tu vas pas voir, et surtout que, en plus, dans l'exemple que je donne, pour le coup, bah, si c'est des contenus que les joueurs vont voir. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, quand le joueur ne va pas faire telle ou telle quête où il y a une situation d'urgence, à la fin du timer, on va, par exemple, je sais pas, moi, lui mettre une cinématique ou un machin, où on voit que tel personnage se fait tuer ou ce genre de choses. Sauf si tu fais vraiment des trucs comme The Witcher 2, par exemple, où en fonction du choix que tu faisais, ça changeait totalement la partie du jeu que tu allais voir, en fait. Sauf à faire ce genre de truc-là totalement gargantuesque, tu peux faire des quêtes aussi très intimistes, qui ne coûtent pas plus cher que ça, fondamentalement, où tu auras exactement le même résultat, et où il y aura besoin aussi de créer des situations d'urgence.
Ce que je veux dire, on l'a déjà eu dans certains JRPG, où par exemple, si tu passes un certain stade du jeu, ben, il y a des personnages que tu peux plus recruter, par exemple. Parce que t'as trop avancé, parce que t'es pas allé faire des trucs avant, etc. Et ça, pourquoi pas?
C'est pour ça que j'aime les Suikoden.
Bah oui, mais moi aussi. L'exemple qu'avait pris Tyran, c'est un peu l'extrême avec, voilà, parce que si tu commences à faire des destructions de villes, etc., ça engendre beaucoup de choses. Mais au départ, ça pourrait être fait juste avec, bah, le recrutement de certains personnages, ou avoir pas la fin complète, tout simplement, si t'as pas fait telle action dans tel temps imparti. Des choses assez simples. Après, oui, y a un problème de budget si après tu te dis qu'il faut détruire 4 villes sur ta map parce que t'as pas fait les trucs, ça commence à être énorme, ça implique beaucoup de choses, mais c'est des choses qui peuvent être faites quand même, des petites choses, voilà, le recrutement de personnages, avoir certaines armes, des petits trucs qui vont quand même toi, enfin nous en tout cas, nous dire, dans notre type de joueur, on est assez comment on dit, complétionniste.
Complétionniste,
c'est ça. À dire que bah, si j'ai pas telle arme, ça me fait chier d'avoir fini le jeu parce que j'ai pas eu telle la meilleure arme, j'ai pas eu tel personnage, etc. Je pense qu'on est tous les trois un peu dans le même cas. On aime pas trop finir les jeux si on l'a pas fait à 100%, quoi.
Enfin, donc, les jeux qui nous plaisent au moins, quoi.
Comment?
J'ai dit les jeux qui nous intéressent.
Oui, bien sûr.
Si,
ouais.
Ça, si c'est un jeu tout pourri.
Non, mais bien sûr. Mais sur un jeu qui nous plaît, on va essayer de le finir à 100% avec tous les meilleurs trucs, etc. Et je sais que moi, ça, voilà, c'est le genre de truc que sur un Suikoden, si je fais un Suikoden, j'essaie de recruter tous les personnages.
Suikoden 5. Le jeu le plus abusé à ce niveau-là, quoi. Genre, tu loupes un personnage, t'en loupes 10 derrière, quoi.
C'est ça, voilà. Ça engendre plein de choses. Et ça, c'est con, mais c'est super intéressant, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui rajoute à l'histoire et à la narration, du coup, parce que voilà, il y a des personnages, si tu les recrutes pas, eh ben, ça va t'empêcher de faire certaines choses dans le jeu, ça va t'empêcher d'évoluer, bon, si c'est dans un Suikoden, d'évoluer ta base, c'est plein de petits trucs, mais pour moi, si je le fais pas, ça veut dire que je veux pas faire le jeu à fond, quoi. Sans dire de détruire des villes, etc., mais ça ajoute beaucoup au gameplay pour moi.
Par contre, pour le coup, on est d'accord que Suikoden 5 c'est un peu abusé.
Oui, non. Après, ben le problème c'est que voilà, il y a des fois ils essaient d'en faire plus, ils font des tests, donc c'est super dur, je pense, de trouver le bon équilibre pour pas que le joueur un peu plus casu se dise ah putain, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer, si en plus il faut que j'y passe 200 heures parce que je vais devoir recommencer le jeu pour avoir tout. Voilà, il faut arriver à trouver une certaine limite. Hein. Après. C'est dur de plaire à tout le monde sur ce type de jeu, ça, j'en suis bien conscient, quoi. C'est
juste pour rappeler, Suikoden 5, t'as un perso qui s'appelle Oboro, qui est un détective en gros. Et si tu loupes ce perso,
ça t'empêche d'en recruter plein, quoi.
Voilà, parce que comme c'est un détective, tu vas pouvoir l'utiliser pour enquêter, etc., et trouver d'autres personnages. Et de ce perso dépend plein d'autres persos. Ouais. Donc si tu loupes celui-là, c'est mort. Et ça, tu vois, c'est un jeu, en fait, qui ose poser des contraintes sur les joueurs. Mmh. Mais c'est vrai que c'était une autre époque aussi.
Oui, voilà. Aujourd'hui, je pense que à nous, ça nous plairait. Parce que voilà, enfin, en tout cas, moi, en tant que joueur de JRPG un peu old school. Mais c'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et je sais que même aujourd'hui, avec le temps de jeu qui m'était imparti, du coup, je sais pas si, par exemple, je prendrais pas la Solus pour certains trucs pour être sûr d'avoir le personnage au bon moment, quoi. Parce que je sais que j'aurais pas le temps de faire le jeu, si le jeu il fait 80 heures, je sais que j'aurais pas le temps de le faire deux fois. Donc voilà, peut-être que ça m'obligerait à prendre la Solus pour certains trucs parce que ça me ferait chier de rater, de tout recommencer.
Ouais, mais justement, jouer avec une Solus, ça serait pas te gâcher un peu l'expérience du jeu.
Non, mais la Solus, c'est pas pour l'histoire, mais vraiment juste, enfin,
pas pour l'histoire, mais pour, par exemple, dans le cas de Suikoden, où tu dois recruter les 108 personnages, à la fin, t'auras tes 108 personnages, tu seras content, et tu reviendras plus sur le jeu, t'auras ton expérience, mais ça aurait pas été mieux, par exemple, si t'aurais fait ton histoire à toi, avec tes 56 personnages recrutés sur les 108, et t'as fini le jeu, quoi. Mais, enfin, moi, je trouve jouer avec la Solus, c'est un peu gâcher, la surprise.
Je suis
quoi.
D'accord avec toi, parce que moi, en plus, c'est le genre de jeu dont je suis fan, donc ça me dérange pas de le recommencer.
Mais enfin, pour moi, l'idéal, c'est tu fais un premier run où t'assumes
voilà,
tout.
Voilà, c'est ça. Hein,
et tu fais un second run où là, tu peux jouer avec la solution.
Faut
quoi,
être
quoi,
assez fan de ce genre
vraiment,
de jeu pour se dire, ça me dérange pas de faire un premier run assez rapide où je vais le finir comme je peux, je vais voir les personnages que j'ai, ce que j'ai raté, etc. Quitte à la fin à ce que, dans le générique de fin, on t'explique qu'à tel moment, t'as raté tel personnage. Ça serait une idée du coup, et qui te pousserait à recommencer, à se dire, ah ben tiens, si j'ai envie de le finir vraiment à fond, je sais qu'à tel moment, il faut que j'aille plutôt là, même si on te dit pas tout, mais te guider un peu, quoi. Pourquoi pas?
Mais tu vois, c'est exactement... Mais j'ai un exemple de jeu où tu as une contrainte de temps. Valkyrie Profile.
Ah oui, exact.
Valkyrie Profile. Ah mais c'est pour ça que j'adore ce genre de jeu. Parce que je rappelle que Valkyrie Profile, t'as tant de jours avant la fin du monde.
Ouais.
Et si tu l'ignores, le jeu se termine.
Et ouais.
J'avais oublié ce truc, tu vois. Parce qu'en fait, moi, on retient toujours de Valkyrie Profile le fait que tu peux très très facilement louper la vraie fin.
Oui, ça. Bon.
Pour rappel, la vraie fin, elle est quasi impossible à avoir sans Solus. Alors certes, t'as des indices qui te laissent à penser qu'il faut faire certaines actions. Il faut que la seal value soit à temps pour débloquer la vraie fin. Enfin bref, c'est un truc, si t'as pas la solution sous les yeux, moi je sais pas comment on fait. Pareil qu'il y en a qui ont réussi, mais bon, voilà.
Ouais, c'est des mythos, ça.
Mais par contre, c'est vrai que dans Valkyrie Profile, t'as des contraintes de temps. C'est un jeu où t'as des jours qui passent et où tu dois gérer le temps qui passe, quoi, quelque part. t'as la fin du monde qui arrive là, démerde-toi avant ça pour résoudre les problèmes, quoi.
Ouais, tu fais comme tu veux, mais tu te débrouilles.
Il y avait aussi ça dans un JRPG sur NES. Je me rappelle plus le nom du jeu, mais en fait, quand tu commences le jeu, t'as un timer qui se met en route, mais toi tu le sais pas, qui est, je crois, de 50 heures environ. Et une fois que t'arrives au bout de ces 50 heures, bah game over, quoi. Le jeu te dit au début que voilà, il y a une catastrophe qui arrive, etc. Mais tu crois que c'est comme n'importe quel jeu classique que tu as pu faire. Il y a pas, quand tu mets start, tu vois qu'il y a un timer dans ton option qui met moins 50, moins 49, etc. C'est fait de manière assez subtile. Et tu vois, et en fait, des fois, il y a des dialogues qui vont te dire oui, il faut se dépêcher, etc. Mais tu sens pas que voilà, ça a une vraie conséquence. Et sauf que bah au bout des 50 heures de jeu, si tu n'y arrives pas, bah t'as perdu, quoi. Le jeu te met un game over et puis tu recommences tout depuis le début du jeu si ça efface sa sauvegarde. C'est un peu trop hardcore dans la manière dont c'est présenté. C'est-à-dire que si quelque chose devrait être fait aujourd'hui, ils pourraient te le faire sans te le dire que voilà, t'as un timer forcément, mais il faudrait qu'ils te mettent des indices vraiment insistants, tu vois. Des choses qui te font comprendre que si tu te bouges pas le cul, ça, il y a quelque chose qui va tomber sur la gueule.
Typiquement, quoi, dans The Witcher, ils pourraient très bien faire que quand tu crois certains PNJ, tu les entends discuter et qu'ils disent ils sont en train d'attaquer telle ville, il faut se dépêcher pour la sauver, des conneries comme ça, quoi. Tu pourrais avoir une mécanique comme ça qui fait que t'es entre guillemets averti qu'il se passe quelque chose et que ça devienne plus urgent.
Ou même tu sais, par exemple, dans un jeu comme Dragon Age, pour créer une situation de stress, par exemple, tu sais que tu dois préparer ta base et que au bout de tant de jours, tu vas avoir un assaut qui va arriver sur ta base, etc. Je me rappelle, c'est ça qui m'avait vachement stressé dans Valkyrie Profile. Chaque mois, enfin, je sais plus quel est le délai qu'il y avait, tu sais, où tu devais faire tes rapports à Freya. Et du coup, t'avais une mécanique comme ça, qui est vachement pernicieuse, parce qu'en plus, si tu jouais avec, tu t'éloignais de plus en plus de la vraie fin. C'est-à-dire que, en gros, le jeu te poussait à entraîner le plus rapidement possible des persos corrects, tu vois, pour les envoyer dans le Valhalla, quoi.
D'accord.
T'avais le temps qui passait, etc. Et à chaque fois, toi, en bon petit soldat, tu vois, t'essayes d'entraîner des persos vite fait pour les envoyer, t'essayes de compléter tel donjon avant que le délai soit terminé, etc. Bref, le temps, en fait, crée une contrainte vis-à-vis du gameplay aussi qui est vachement intéressante. Non seulement ça apporte quelque chose du point de vue de la narration, mais en plus du point de vue du gameplay, il y a des choses à faire avec ça, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ouais, c'est sûr. Après, c'est toujours pareil, c'est arrivé à intégrer ça dans un... dans open l'open world qui devient compliqué, quoi. Parce que des exemples de JRPG où à certains moments du jeu t'es pressé, il y en a plein, hein, pressé par le fait de recruter des personnages ou de rater des choses, ça existe.
Bah, par exemple, Persona 4, où c'est un dating sim, donc t'as le calendrier, si tu loupes des events, c'est loupé, quoi.
Oui.
Mais vous, du coup, imaginons, ça y est, c'est la fête, t'as un développeur qui prend le risque d'imposer à des joueurs d'open world, là, par exemple, il y avait tel personnage, il allait être assassiné tel jour, tu le savais, t'as rien fait, il est mort. Est-ce que vous seriez prêt à assumer ce genre de choses ou pas?
Ah oui, moi, grave.
C'est-à-dire en tant que joueur?
Oui. Bah ouais. Là, c'est vraiment aux joueurs que je m'adresse. Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de mes désirs à ça, quoi, on va dire. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment un truc, je sais que ça me ferait kiffer. Mais est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Ou c'est juste moi qui ai une lubie comme ça?
Non, mais moi, je pense que ça peut être justement quelque chose de super intéressant. Tu vois, c'est comme au cinéma ou dans la littérature. Des fois, le héros ne peut pas sauver tout le monde. Et dans le jeu vidéo, j'ai un peu l'impression que c'est le contraire. Le héros doit sauver tout le monde et sauve en général tout le monde. C'est-à-dire que il y a des personnages qui meurent, etc., mais c'est prévu par l'histoire. Alors que là, ça serait bien que le jeu justement te propose de te laisser le choix de, si tu veux, de sauver la personne ou pas, ou des fois justement de pas pouvoir y arriver. Batman, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très torturé et justement, bah, il peut pas sauver tout le monde à chaque fois. Et dans le jeu vidéo, j'aimerais bien qu'on arrive un jour à quelque chose qui puisse se rapprocher de ça, ou bien du moins utiliser ses propres codes pour nous mettre en stress, en situation de danger, situation où on sent un malaise, et où il faudrait justement qu'on puisse agir pour pouvoir justement modifier ou pas l'issue de l'action, quoi.
Mais finalement, je trouve que ne pas mettre de contraintes sur les joueurs, quelque part, c'est un peu gâcher le travail qui est fait sur l'écriture, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux parfaitement t'en foutre de l'histoire, quoi, et derrière, ça n'a aucune conséquence. Tu peux jouer un personnage totalement indifférent à ce qui se passe, mais il a beau être indifférent, ça n'a pas de conséquence, en fait. Ça donne vraiment le sentiment d'avoir affaire à quelque chose qui est factice. Moi, c'est ça qui est vraiment qui me pose problème avec ce manque de sensation d'urgence, c'est que du coup, t'as tout l'open world qui se déconstruit devant toi, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu vois, t'as une dichotomie entre le fait qu'on te met une histoire très intense, et de l'autre, on n'ose pas te faire assumer ça, quoi. Et ça te sort un peu du jeu, je trouve. Moi, en tout cas, ça me sort du jeu. Je peux aller, aller jouer au Gold Saucer pendant 30 heures, et il ne se passera strictement rien. Et c'est là que tu vois que c'est, on te rappelle que c'est un jeu, en fait.
Ouais. Ouais. Je peux jouer au Gold Saucer, Sephiroth attendra.
Voilà, mais c'est exactement ça.
Surtout
quoi.
La météorite qui tourne autour de la planète sans s'écraser, quoi.
Non, mais, en plus, j'adore, tu vois, tu sors avec, sur la map, t'as la musique super triste. Et tu vois, oh non, mais rien à foutre.
Il y a les armes aussi qui ont été invoquées, qui restent sur place aussi, qui attendent tranquillement que tu finisses ta partie de moto, là, que, tu sais, le jeu d'arcade. Mais enfin, ça, c'est sûr que il y a clairement un écart entre la narration et ce que toi tu joues. Après, bon, l'exemple de Final Fantasy VII, c'est quand même un jeu PS1, donc on peut lui pardonner ses erreurs. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, en The Witcher 3, voilà, Geralt doit sauver quelqu'un qui lui est cher. Mais au bout d'un moment, t'as l'impression que je dois aller sauver cette personne-là, mais là-bas, il y a quelqu'un qui me propose d'aller chasser un démon dans une caverne. Ah, puis la personne que je dois sauver, elle attendra aussi, tu vois. Mm. Tu fais de l'XP, tu deviens plus puissant, t'achètes un meilleur équipement. Après, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai fini toutes les quêtes secondaires que j'ai pu faire. Bon, maintenant, je vais pouvoir m'occuper de cette personne-là, allez.
Ouais, après c'est dur de le faire sur toute une histoire, mais comme on disait, on peut le faire sur certains points, comme voilà le recrutement de compagnons que si tu vas pas dans un certain temps, tu les rates. Voilà, déjà ça c'est des choses qui sont assez facilement intégrables, je pense, plus facilement et on va dire à moindre coût que de détruire une ville complète et de changer la moitié de l'histoire, quoi.
Après, voilà, on n'est pas obligé d'en arriver à des extrêmes ça. Ça peut être, si tu veux, le roi est mort, et hop, on change de roi, tu vois. C'est son frère qui l'a buté, c'est lui qui prend sa place. Ça serait des changements déjà, beaucoup moins coûteux et puis beaucoup plus simple à faire, je pense aussi en termes de, ne serait-ce que de mise en scène et voilà. Ça pourrait apporter quelque chose à l'histoire. Il y a des trucs aussi que, vu que t'as pas agi à ce moment T et que t'as pas eu d'influence, le jeu a pris une décision sans toi. Et, en prenant cette décision sans toi, ça te peut t'amener à des surprises d'histoire.
Et surtout, ça te montre quelque part que certes, tu es moteur dans l'histoire, mais ta non-action aussi peut avoir des conséquences, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas dans un jeu qui va se figer brusquement parce que t'as décidé que t'allais galoper dans les champs pendant des heures.
Dans les jeux vidéo, vu que on est un peu en fait le centre du monde, quoi.
Ouais.
C'est les gens t'attendent, même le méchant le plus machiavélique, il t'attendra. Donc.
Par contre, je pense qu'il y a un extrême où il faudrait pas tomber. C'est l'extrême où voulait aller au départ un certain Stalker.
Mmh. Ouais.
À savoir que dans Stalker, ils avaient au départ prévu que tu serais en concurrence avec d'autres Stalkers, en fait, et qu'eux, ils pourraient finir le jeu. Tu vois.
Mais c'est cool, ça, sur papier.
Ouais, c'est cool sur le papier. Moi, je pense que vraiment, c'est cool sur le papier. Parce que concrètement, en fait, le problème de cette technique-là, c'est que tu fais comment pour donner la sensation au joueur qu'il y a bien un mec en face de lui qui lui fait de la concurrence et que s'il se bouge pas le cul, il va se passer ça, tu vois. C'est ça le problème. C'est que à un moment donné, c'est comment tu transmets l'information au joueur pour lui dire mec, si tu te dépêches pas, les autres gars là,
ils vont pas
t'attendre, c'est eux qui vont être les héros, tu vois, hein. L'histoire ne t'attend pas, tu vois. Et comment tu crées... Alors, pour le coup, autant je vois comment créer la sensation d'urgence en créant des triggers, tu sais, avec la narration, etc. Autant là, tout un jeu en entier, où finalement, t'as un mec qui passe devant toi et qui résout les problèmes avant toi, comment tu fais pour que le jeu ne soit pas chiant, en fait?
Ouais.
Si justement l'intelligence artificielle fait des quêtes et que toi justement t'en as d'autres pour avancer, mais bah ça va, vous marchez pas trop sur les pieds. Mais si tu dois suivre un ordre précis pour arriver à la fin du jeu et vous êtes obligé de faire les quêtes dans le même ordre et que finalement l'IA te pique tes quêtes, bah ça sert à rien de jouer quoi.
Bah après peut-être pas finir le jeu, mais pourquoi pas, voilà, piquer certaines quêtes par exemple pour choper une arme meilleure. Juste des petits trucs comme ça, des petits points, c'est toujours pareil. Après voilà, des fois t'as envie aussi de prendre un peu ton temps, et il faut pas que tu sois tout le temps pressé dans le jeu, parce que il faut qu'il y ait des moments où si t'as envie d'explorer, de découvrir, parce qu'en plus il y a des jeux qui te poussent à ça, à l'exploration. Donc il faut pas que ça soit tout le temps non plus la course quoi. Mais pourquoi pas dans certains points, moi je trouve ça peut être intéressant. Par exemple, tu rentres dans un donjon et on va dire que tu rentres au même moment que l'autre personnage qui est joué par l'IA,
ouais,
et on
là,
te dit ben voilà, hein. C'est le premier qui arrive à la fin qui chope l'arme quoi. Tout bêtement.
Sinon, tu le butes ?
Ben pourquoi pas ?
Ouais, imaginons.
Pourquoi pas, ça peut être une possibilité aussi, bien sûr.
Ah ouais, mais enfin moi si je vois une IA comme ça qui vient me faire chier, il y a pas moyen quoi.
Et là après on te montre sa femme, ses enfants.
Voilà, et après ça a un impact sur le jeu parce qu'à un certain moment, il pouvait t'aider à battre un boss et comme tu l'as tué, ben tu vas galérer, tu vas deux fois plus galérer parce que lui il est plus là par exemple.
Toi, tu joues un gros connard dans Mass Effect, hein, Mathé, chez ça.
Non, dans Mass Effect, au début, je fais le mec...
mec cool.
Le mec conciliant. Après, je refais une partie en mode pragmatique. Et après, je refais une partie où je m'amuse entre les deux, en fait. Non, en fait, la troisième partie, c'est celle où je fais genre comme si je ferais dans la vraie vie. C'est-à-dire, si le mec, il me parle comme un connard, bah je lui parle comme un connard. Et s'il me parle bien, bah je lui parle bien, quoi.
Ouais.
Et par contre dans Mass Effect, moi ce que j'aimais bien c'était à partir de Mass Effect 2 là, quand il y avait les QTE là, les espèces de QTE, quand il apparaissait là avec le bouton rouge là, t'as appuyé sur L2 là, il sortait, je sais pas, il était trop badass, il sortait le gun là, il tirait direct. Mais pour ce que tu vois, si tu me disais que je tuais l'IA et après on présente sa femme et ses gosses et tout ça, pour moi ça n'aura aucun impact parce que ça sera que des pixels donc
Ouais, mais si par exemple
Ouais non mais imaginons par exemple à un moment donné tu te balades en ville et là t'as le gosse qui arrive qui te jette une pierre dans la gueule. Bah après il faudrait savoir comment il fait pour savoir que c'est toi etc, mais imaginons il arrive à savoir.
Bah j'installe un mode pour tuer les enfants.
Non mais tout simplement voilà, comme je disais,
où ils se font bouleter par les dragons.
Le fait de l'avoir tué à un moment, ça t'empêche plus tard qu'il t'aide peut-être même à débloquer un autre truc, j'en sais rien. Peut-être qu'à un moment t'arrives dans un espèce de donjon et t'as un truc qui te bloque l'entrée, et si t'as tué ce personnage, et ben du coup tu peux pas rentrer dans ce donjon par exemple. Te laisser ouais, vraiment...
Imaginons, tu vois, un jeu qui se déroule sur plusieurs années par exemple, une fois que le gosse est adulte, il vient essayer de te tuer.
Ouais, voilà, ouais.
ou sinon, mais parce que comme tu l'as dit, il faut pas que ça soit tout le temps la course non plus, parce qu'au bout d'un moment, je pense que si à chaque fois t'as toujours des épées de Damoclès sur la tête, tu vas te sentir un peu étouffé, tu vois.
Ouais, mais après c'est une question de rythme, on est d'accord.
Ouais, voilà, il faut arriver à trouver un juste milieu cohérent, quoi.
Mais par exemple, tout à l'heure, tu sais, Ben, tu parlais des espaces où on pouvait souffler, ou profiter de l'open world. Mm-hmm. Mais je pense qu'en fait, c'est ce que faisaient les RPG Jap. Tu sais, quand à chaque fois devant les boss, on disait bon, maintenant, ok, tu fais ce que tu veux.
Ouais.
jusqu'à maintenant, t'as fait chier avec l'histoire. Tu vas pouvoir profiter un peu de l'open world avant qu'on la termine, si tu veux.
C'est ça.
Ouais. Et ça, je pense que ça venait vraiment du côté linéaire. Des JRPG. Les mecs se disaient, putain, mais à quel moment on va caser le fait que ils peuvent se balader, en fait?
Bah, disons qu'en plus, dans les JRPG à l'époque, les quêtes annexes étaient souvent justement situées à la fin, en fait. Tu faisais vraiment l'histoire principale pendant 80% du jeu, et les derniers 20%, c'était souvent que tu faisais les quêtes annexes parce que tu pouvais pas les faire avant, parce que t'avais pas accès à tous les endroits, etc. Aujourd'hui, dans un open world, enfin, type Witcher, tu débloques des quêtes annexes à tous les coins de rue. Donc c'est un peu différent aussi, quoi.
Tu as accès à tous les départs.
Voilà, ouais,
mais c'est la grosse différence. Et c'est peut-être pour ça aussi que, pour moi, justement, les JRPG, comme ils étaient construits, et que de manière plus linéaire, et justement, qui te racontent l'histoire, etc., je me rappellerai plus de ces jeux-là, en termes de scénario, que, bah, justement, de tous les RPG occidentaux, quasiment, vu que, les RPG occidentaux, bah, l'histoire, c'est quelque chose qui est très dilué, enfin, surtout ceux en monde ouvert, tu vois.
Quand tu veux faire une histoire, faire un jeu linéaire, forcément, c'est tout de suite plus marquant qu'une expérience où tu vas permettre aux joueurs de choisir de faire ça ou de faire ça, tu vois.
Justement, bah, les JRPG, déjà quand c'était ceux en 16 bits et 8 bits, etc., ils arrivaient à évoquer des choses rien que par la musique ou par des petits, tu vois, des petits personnages en SD, et pour montrer qu'ils étaient contents, bah, ils sautaient sur place. Et après, depuis que c'est arrivé l'ère de la 32 bits, il y a eu la surenchère de la cinématique, mais en même temps de la mise en scène qui était vraiment travaillée. À chaque fois que tu voyais une scène cinématique, t'avais un, c'était comme si t'avais une récompense en fait. Et alors que les RPG occidentaux, t'as tellement de choix que bah ils ont délaissé la narration et tout ce qui est mise en scène des personnages. Moi j'aurais bien aimé avoir un mélange entre ces deux univers là.
Bah fondamentalement ça s'appelle The Witcher.
Bah oui mais merci de m'enlever le mot de la bouche. The Witcher 3, il a réussi à mélanger un petit peu des deux. Et enfin après il reste juste que le système de compétences est pourri, mais bon à part ça il changerait ça et les combats un peu plus dynamiques et surtout enfin une hitbox un peu moins pétée, ça serait parfait.
Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question en fait.
Ouais, on a fait un bon tour en tout cas, oui.
Donc voilà, moi je vois pas trop quoi rajouter. Donc c'était nos divagations de la semaine sur nos fantasmes ludiques, n'est-ce pas?
Moi j'ai un truc à rajouter. C'est par rapport à la semaine dernière en fait, dans les trucs qui nous faisaient chier, c'était j'avais juste oublié de dire les modes multijoueurs dans les jeux solo qui servent à rien et les DLC qui coupent l'histoire et qui sont vendus plus tard, voilà.
Tu parles de Prince of Persia, c'est ça?
Non, je parlais de un autre jeu Ubi, c'était Assassin's Creed 2 avec le bûcher des vanités qui a été retiré du jeu, et aussi Mass Effect 2 avec la quête du courtier de l'ombre que je n'ai jamais pu faire parce que ces enfoirés ils l'ont mis en DLC dans Mass Effect 2, et quand j'ai fait Mass Effect 3, ils m'ont dit que j'avais résolu la quête.
Ah oui, avant que j'oublie, par contre, je voulais répondre à Herman qui disait que c'était quand même bizarre ces gens qui accordaient toute cette importance au scénario dans le jeu vidéo. Alors, entendons-nous bien, hein. Pourquoi on parle beaucoup de scénario dans le jeu vidéo? Parce qu'on est amateur de JRPG, de jeux à histoire, etc. Mais on est bien d'accord que dans un FPS, le scénario, sauf si tu veux faire un FPS un peu particulier, c'est pas le cœur du gameplay, quoi. Ou même dans un cast brick, c'est pas le cœur du gameplay, on est d'accord. Ouais, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, ok, faire des jeux avec un pur gameplay, où ça demande du skill, etc., ça, on sait faire. Par contre, faire des jeux où tu as un gameplay qui influence l'histoire, ça, on sait pas encore faire du tout. En tout cas, c'est un domaine, je trouve, qui est assez peu exploité dans le RPG occidental. Alors que justement, ce que j'apprécie dans le RPG japonais, c'est qu'ils ont essayé de faire des trucs. Suikoden, Persona, enfin, ne serait-ce que ces deux exemples-là, tu vois. Ce sont des jeux qui exploitent le gameplay, tu vois, pour raconter différentes choses. On exploite la vie d'un lycéen pour faire un truc, enfin, moi je trouve ça extraordinaire, tu vois.
Et surtout nous, enfin... Avec le jeu vidéo qui plus les années passent, plus on, je pense qu'on peut demander à être plus exigeant là. Et pour moi, les scénarios et la narration dans le jeu vidéo, c'est un peu quelque chose qui s'appauvrit de plus en plus en fait avec le temps, j'ai l'impression. Et justement,
moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Hein. Ça a jamais été extraordinaire, je trouve.
Ouais, mais bon, si tu veux, quand t'es petit,
on avait pas le même ressenti, ouais, c'est sûr.
Ouais, quand t'es petit, un scénario de, je sais pas moi, un scénario de Zelda qui est tout pourri ou bien Mario, ça passe mieux qu'aujourd'hui, quoi. J'ai fait Ocarina of Time à 8 ans. Ocarina of Time, pour moi, à 8 ans, je me suis dit, ouais, mais l'histoire, c'est un truc de ouf, tu vois. Alors que finalement, c'est juste, va sauver le monde et rétablir la lumière dans Hyrule. Mais aujourd'hui, ce serait bien qu'on tourne un petit peu, qu'on aille un peu plus en avant du, bah alors, le royaume là-bas, c'est le méchant, toi, t'es du royaume des gentils. Bon, bah, va péter la gueule au méchant, comme ça, après, on est tranquille et on pourra vivre en paix, dans notre royaume de gentils.
Voilà, mais surtout, quand on te largue dans un monde où tu vas jouer 80 heures, quoi, quelque part.
Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on peut demander à être plus exigeant et avoir des jeux mieux écrits qu'un film hollywoodien, quoi.
En tout cas, l'écriture, je pense que ça fait quand même un moment qu'on a certains studios qui savent faire de la qualité. Voilà, Rockstar, pour ne pas citer, voilà.
Et encore, tu vois, Rockstar, ils sont très forts, mais ils sont beaucoup dans le référencement aussi, je trouve.
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'ils prennent, par exemple, GTA, c'est beaucoup du Parrain, de Scarface, tous ces grands films-là. Par exemple, GTA V, là aussi, il y a du hit, enfin, c'est des classiques du cinéma, il y a de l'inspiration, etc., de ces films-là, c'est clair et net. Si tu veux, ils prennent pas la scène telle quelle.
Mais la retravaille, ouais.
Voilà, par exemple, je pense à Vice City, avec la scène de la tronçonneuse, ce qui fait penser à Scarface. Là dans Vice City, comme elle est présentée, c'est de manière totalement loufoque, tu vois. Et ils arrivent justement à utiliser ces codes là pour les détourner, et c'est pas juste un plagiat.
Et surtout, ils racontent quelque chose par rapport à la société américaine d'aujourd'hui. Oui, voilà, à chaque fois.
Voilà, et eux ils savent vraiment faire ça. Après il y a eu The Last of Us pour moi qui a eu un vrai impact sur la narration dans aussi dans le jeu vidéo, un peu comme The Witcher 3. C'est-à-dire que si tu prends l'histoire telle quelle, elle est, c'est une histoire assez classique quoi, qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais de la manière dont c'est raconté, dont les personnages sont impliqués, dont ils, comment ils parlent, comment ils interagissent entre eux, pour moi ça fait un pas en plus dans le média du jeu vidéo quoi.
Ou même alors certes ça fait beaucoup plus polémique, mais BioShock 3.
Ouais. Moi, j'ai kiffé BioShock 3.
Le fait, tu sais, d'avoir ce PNJ qui t'accompagne en permanence, enfin Elisabeth, franchement, voilà, elle est vivante quoi. Enfin, elle fait l'illusion en tout cas.
Pour moi, Elisabeth, parce qu'il y a, eu beaucoup de gens qui disaient, ouais, les filles dans le jeu vidéo, etc., etc. Certes, c'est vrai que, voilà, l'image de la femme dans le jeu vidéo n'est pas super, mais si vous voulez un personnage fort du jeu vidéo, pour moi, Elisabeth est clairement un de ces personnages-là.
Bon, par contre, on pourra rétorquer que ce n'est pas le personnage principal, etc.
Ce n'est pas le personnage principal, mais ça n'empêche pas qu'elle a un rôle super important. Et au final, je me demande si à la fin, c'est pas le personnage principal.
Ouais, alors ouais,
c'est un autre débat ça encore.
Ne parlons pas du scénario de BioShock 3 parce que sinon on est encore là dans 3 heures. Mais pour le coup par contre, si je pense qu'il y a un truc qui est raté dans BioShock 3, c'est son scénar. Mais le scénar, je trouve qu'il fait vraiment très très compliqué pour pas grand-chose au final quoi. Mais c'est le scénar qui essaye de faire intelligent, mais que au final quand tu regardes vraiment de près ce qu'il raconte
je suis pas trop d'accord avec toi, c'est-à-dire une fois que tu, parce que enfin moi le jeu je l'ai fait une fois hein. Après, je sais pas, je suis pas parti voir sur internet, etc. Mais une fois, moi, je trouve qu'une fois que tu fais le jeu et que il y a le twist justement qui apparaît, je trouve que bah sur le moment ça fonctionne bien quoi.
Moi, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était faire inutilement compliqué. Enfin, moi, vraiment pour le coup, c'était l'impression que j'avais quoi. C'est on te fait un truc compliqué pour raconter au final un truc qui est très simple. C'est plus de l'ordre de l'illusion que du vrai scénario bien ficelé quoi.
Moi, quand j'ai vu le twist, je me suis dit ah les bâtards.
Ah bah ça a fonctionné, si soit ça a eu ce ressenti, c'est que sur toi ça a marché, ouais.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine.
Ouais.
Yes.
Rendez-vous la semaine prochaine, en espérant qu'on puisse enfin faire un podcast actu.
Ouais, ça serait pas ça mal aussi, ouais.
Pour varier un peu. Mais là, très honnêtement, en ce moment, l'actu, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est...
Ouais, début d'année, c'est pauvre, hein. C'est...
Ah ouais, c'est très bizarre parce que décembre, il y avait plein de trucs.
Ouais.
Et là, c'est mort.
C'est ça.
C'est totalement mort.
Bah,
quoi.
Ça va repartir. Il y a des jeux qui vont commencer à ressortir. On va avoir plein de scandales. Ça va repartir.
En fait, les gens, rassurez-vous. Hein, pour ceux qui avaient peur pour ce pauvre petit développeur Jonathan Blow, hein, qui se plaignait du piratage, les ventes sont plus élevées que celles de Braid à l'époque.
Ouais, je crois qu'il a fait en 2 semaines, il a fait autant de chiffres qu'avec Braid pendant toute sa carrière.
Non, quand même pas. Faut pas exagérer parce que Braid c'est plusieurs millions. Hein,
ouais, mais il a dit que justement il a fait autant d'argent avec ce qu'il avait avec The Witness en 2 semaines que avec la durée de vie totale de Braid.
De Braid.
Ah bon?
Ah oui.
Bah il était peut-être vendu moins cher aussi Braid à l'époque. Ouais.
Ah oui, oui, c'est pas ça.
Il est à 100K, alors, hein, c'est quand même pas beaucoup, hein, comparé à un Braid.
Non, mais parce que Braid, il devait être vendu 10 euros. Ou 10
ah,
dollars.
Oui, c'est possible.
Et The Witness, il est à 30.
20, je crois.
Enfin.
37. 37.
37?
37?
Ouais.
Ça, 37 dollars.
Le juste prix.
je le sais parce que, vu le nombre de personnes qui s'en sont plaintes du prix, tu vois.
Ouais.
Je m'étonne. Ouais.
Donc voilà, et bizarrement, apparemment, il se vend plus sur PC que sur PlayStation 4. Donc moi, je comprends pas. Si à un moment donné, on me dit que sur PC, c'est des vilains pirates, etc. Enfin, voilà. Enfin, toujours la même histoire. Est-ce que le piratage influence négativement les ventes d'un jeu? Enfin voilà. C'est, je pense que dans 10 ans, on sera toujours à échanger les mêmes arguments.
Pas trop évolué, je crois.
Voilà. Bon, allez, messieurs, on s'arrête là pour cette semaine. Ouais. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Salut.